Et là, au matin du 12, que voit-il arriver ? 200 lances, précédées d'une bannière jaune et blanche, et au milieu des lances, une grande litière rouge, d'où sort un cardinal. J'ai accoutumé mes sergents et valets, vous l'avez vu, à mettre genoux en terre quand je descends. Cela fait toujours impression sur ceux chez qui je parviens. Beaucoup aussitôt s'agenouillent de même et se signent. Mon apparition mit de l'émotion, je vous le donne à croire, dans le camp anglais. J'avais la veille quitté le roi Jean à Amboise. Je savais qu'il n'attaquerait pas encore, mais que le moment ne pouvait plus être éloigné. Alors, à moi d'engager mon affaire. J'étais passé par Bléré, où j'avais pris peu de sommeil. Flanqué des armures de mon neveu de Durazzo et de messire de Heredia, et suivi des robes de mes prélats éclairs, j'allais au prince et lui demandai de s'entretenir avec moi, seul à seul. Il me parut pressé, me disant qu'il levait le camp dans l'heure. Je lui assurai qu'il avait un moment et que mon propos, qui était celui de notre Saint-Père le Pape, méritait qu'il l'entendît. De savoir, comme je m'en portais certain, qu'il ne serait pas attaqué ce jour, lui donna certainement du répit, mais tout le temps que nous parlâmes, bien qu'il voulût se montrer sûr de soi, il continua de marquer de la hâte, ce que je trouvais bon. Il a de la hauteur dans le naturel, ce prince, et comme j'en ai aussi, cela ne pouvait pas nous faire le début facile, mais moi j'ai l'âge qui me sert. Bel homme, belle taille, en effet, il est vrai, mon neveu, que je ne vous ai point encore décrit le prince de Galles. 26 ans, c'est l'âge, d'ailleurs, de toute la nouvelle génération qui devient maîtresse des affaires. Le roi de Navarre a 25 ans, et Phébus de même. Seul le dauphin est plus jeune. Galles a un sourire avenant qu'aucune dent gâtée ne dépare encore. Pour le bas du visage et pour la carnation, il tient du côté de sa mère, la reine Philippa. Il en a les manières enjouées, et il grossira comme elle. Pour le haut du visage, il tirerait plutôt vers son arrière-grand-père, Philippe le Bel. Un front lisse, des yeux bleus, écartés et grands, d'une froideur de fer. Il vous regarde fixement d'une façon qui dément l'aménité du sourire. Les deux parties de cette figure, d'expression si différente, sont séparées par de belles moustaches blondes à la saxonne qui lui encadrent la lèvre et le menton. Le fond de sa nature est d'un dominateur. Il ne voit le monde que du haut d'un cheval. Vous connaissez ses titres. Édouard de Woodstock, prince de Galles, prince d'Aquitaine, duc de Cornouailles, comte de Chester, seigneur de Biscaye. Le pape et les rois couronnés sont les seuls hommes qu'il ait à regarder pour supérieurs. Toutes les autres créatures, à ses yeux, n'ont que des degrés dans l'infériorité. Il a le don de commander, c'est certain, et le mépris du risque. Il est endurant, il garde tête claire dans le danger, il est fastueux dans le succès et couvre de dons ses amis. Il a déjà un surnom, le prince noir, qu'il doit à l'armure d'acier bruni qu'il affectionne et qui le rend très remarquable, surtout avec les trois plumes blanches de son aume parmi les chemises de mailles toutes brillantes et les cottes d'armes multicolores des chevaliers qui l'entourent. Il a commencé de bonne heure dans la gloire. À Crécy, il avait donc 16 ans, son père lui confia toute une bataille à commander, celle des archers gallois, en l'entourant bien sûr de capitaines éprouvés qui avaient à le conseiller et même à le diriger. Or cette bataille fut si durement attaquée par les chevaliers français qu'un moment, jugeant le prince en péril, ceux-là qui avaient charge de le seconder dépêchèrent vers le roi pour lui demander de se porter au secours de son fils. Le roi Édouard III, qui observait le combat depuis la butte d'un moulin, répondit au messager « Mon fils est-il mort, atterré ou si blessé qu'il ne se puisse aider lui-même ? Non ? Alors retournez vers lui ou vers ceux qui vous ont envoyé et dites-leur qu'il ne vienne me requérir, quelque aventure qu'il lui advienne, tant qu'il sera en vie. » J'ordonne qu'il laisse à l'enfant gagner ses éperons, car je veux, si Dieu l'a ordonné, que la journée soit sienne et que l'honneur lui en demeure. Voilà le jeune homme, donc, devant lequel je me trouvais pour la première fois. Je lui dis que le roi de France, devant moi, il n'est pas le roi de France, fit le prince. Devant la Sainte Église, il est le roi, oint et couronné, lui renvoyai-je. Vous jugez du ton. Que le roi de France, donc, venait à lui avec son hoste, qui comptait près de 30 000 hommes. Je forçais un peu, à dessein. Et pour être cru, j'ajoutais, d'autres vous parleraient de 60 000, moi je vous dis le vrai. C'est que je n'inclus pas la piétaille qui est demeurée en arrière. J'évitais de lui dire qu'elle avait été renvoyée. J'eus le sentiment qu'il le savait déjà. Mais n'importe, 60 ou 30 ou même 25 000, chiffre qui s'approchait plus du vrai, le prince n'avait que 6 000 hommes avec lui. Tous archers et coutiliers compris. Je lui représentai que dès lors ce n'était plus question de vaillance, mais de nombre. Il me dit qu'il allait être rejoint d'un moment à l'autre par l'armée de Lancastre. Je lui répondis que je le lui souhaitais de tout mon cœur pour son salut. Il vit qu'à jouer l'assurance, il ne serait pas mon maître, et, après avoir marqué un court silence, il me dit tout à trac qu'il me savait plus favorable au roi Jean, à présent il lui rendait son titre de roi, que je ne l'étais à son père. « Je ne suis favorable qu'à la paix entre les deux royaumes, lui répondis-je, et c'est elle que je viens vous proposer.